Alors, bonjour à tous. Bienvenue au balado Le No Brainer. Je suis Isabelle Gilbert, l'une de vos présentatrices. Et aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir le docteur Gabriel Venn, qui est docteur en anatomie, mais aussi ostéopathe. Il est aussi professeur adjoint en anatomie pour la faculté de médecine de l'Université McGill, mais aussi pour la faculté des sciences. Allô, Gabriel.
C'est vraiment le fun que tu m'as invité.
Ben vraiment, c'est un honneur pour nous de te recevoir là, à notre balado. Dis-moi, Gabriel, là, pour mettre en contexte nos différents auditeurs là, que ce serait la première fois qu'ils entendent parler de toi. Dis-nous, là, si tu te présentais un peu globalement, là.
C'est toujours une question qui est dure à répondre. Je ne suis pas vraiment bon pour parler de moi-même, mais je peux peut-être parler du parcours là, qui m'amène peut-être à pourquoi est-ce que tu m'as invité, là, c'est-à-dire pourquoi est-ce que j'enseigne l'anatomie pour McGill. Premièrement, ben, le parcours, vite en ostéo, on a tous des parcours particuliers. Moi, mon parcours en ostéo, il remonte à quand j'étais très jeune. Notre ostéo familial, qui était aussi un peu notre médecin de famille, c'est Roger Robitaille à Saint-Gabriel-de-Brandon, qui était MD-DO. Donc, un des premiers élèves à M. Sicotte, puis à M. Druel. C'est lui qui m'a vraiment aidé le plus parce que j'avais beaucoup de migraines quand j'étais petit. Blablabla. Il m'a comme montré un petit peu l'ostéo, qu'est-ce que c'était. Puis ce qui était vraiment intéressant, c'est dans mes souvenirs, quand je remonte, puis je me rappelle en tant qu'enfant, quand je rentrais dans son bureau, il était dans le sous-sol, c'était un peu sombre, mais tous ces murs, il n'y avait pas une place où il n'y avait pas un poster d'anatomie. Puis à chaque fois qu'il nous traitait, après ça, il allait avec son doigt pointer des structures sur le mur et revenait. Fait que pour lui, c'était vraiment comme, on dirait qu'il naviguait dans ses atlas qui transposaient sur notre corps. Fait que ça m'avait vraiment marqué là, quand tu vois, je l'en parle, puis on dirait que j'ai revu ces moments-là.
Oui, ça fait remonter des émotions.
Ben bref, ça m'a vraiment comme communiqué un petit peu cette passion-là de l'ostéo, mais aussi de l'anatomie. Puis plus dans son domaine de l'application d'anatomie sur un patient. Fait que c'est pas mal lui qui m'a comme montré un petit peu qu'est-ce qu'était l'ostéo, parce qu'en plus, c'est ce qui m'a aidé le plus avec mes migraines. Fait que c'est juste plus tard quand bon, le choix de carrière s'est fait, que j'ai décidé d'aller en ostéo. Première école que je suis allé, c'est à l'Institut d'ostéo de M. Coallier, mais ça l'a pas satisfait tant que ça, là,
ton
ma
besoin.
Curiosité, ouais, c'est ça. Parce que j'en parlais avec Roger Robitaille, puis lui, ce qu'il mentionnait, c'était un peu ce que ben, il relatait les dires de Steele, que le plus important, c'était l'anatomie. Là. Puis bon, tu vois, son bureau, il faisait bien référence à cet adage-là. Puis l'Institut, ben, on parlait pas vraiment d'anatomie, mais pas assez à mon goût, en fait. Fait qu'après, j'étais allé au CEO, où là, il y a Laurier Pierre, que tout le monde connaît. C'est, à mon avis, c'est une légende. Salut Laurier Pierre, d'ailleurs, si tu écoutes. Laurier Pierre, qui, par sa passion, sa connaissance, mon Dieu, ça l'a vraiment. J'ai vraiment trouvé la bonne place, en fait, là, pour apprendre l'anatomie puis l'ostéo. Fait que j'étais content. Puis ben, j'ai fait le cursus du CEO, qui, à l'époque, qui était chapeauté par l'Université de Wales. Puis pendant ce cursus-là, j'avais essayé d'organiser des ateliers de prosection, de dissection-prosection avec l'UQTR. La première place que j'avais essayé, c'était avec l'Université de McGill, parce que je savais qu'il y avait un département d'anatomie, donc un laboratoire, là. Mais j'ai jamais eu de retour, parce que probablement qu'on n'était pas pris sérieusement. On était quelques étudiants qui voulions justement là, aller utiliser leur labo pour apprendre mieux l'anatomie, visualiser, autre que dans des livres d'anatomie ou sur ben, entre collègues, là, sur nous, sur des patients. Mais il n'y a jamais eu de réception, jamais eu de retour non plus. Fait qu'on est allé à Trois-Rivières, on est allé là. Puis, Dr. Bronchetti, qui à l'époque était celui qui donnait les ateliers de prosection, dissection, un autre bonhomme hyper passionnant, d'une connaissance incroyable. Ça nous a vraiment aidé à justement visualiser l'anatomie, à mieux comprendre tout ça. Mais à chaque fois qu'il y avait un étudiant qui avait une question sur peut-être une interprétation clinique de ce qu'on voyait, Il était un peu... Bref, il pouvait pas nous aider.
Il était désarçonné. Est-ce que tu dirais qu'il était désarçonné?
Désarçonné, mais il était pas tellement compréhensif de la lecture qu'on faisait de l'anatomie, parce que on a une lecture puis une interprétation très ostéopathique. Fait qu'il y avait des liens qu'on faisait ou nos questionnements sur l'interprétation clinique de certaines problématiques allaient un petit peu à l'encontre de son anatomie plus classique. Okay. Fait que pour apprendre l'anatomie, c'était absolument génial. Mais pour essayer de mieux, de voir plus clair dans le raisonnement clinique, on n'était pas capable, c'était pas satisfaisant. Fait que bref, c'est de là que germait un petit peu l'idée de, pour apprendre l'anatomie, bref, on le sait, là, Dr. Bronchetti, c'est ces personnes-là qui ont une connaissance, qui ont un accès en laboratoire, c'est probablement un outil qui est absolument extraordinaire. Mais ils sont pas outillés pour nous éclairer dans notre compréhension ostéopathique, si on veut, de l'anatomie. Fait que c'est comme de là qu'est partie l'idée, si on veut, de continuer après l'ostéo pour voir si on pouvait pas aller chercher les clés d'un laboratoire d'anatomie.
Ben justement, vu que tu mentionnes là, ça t'a initié une continuité là à la suite de tes études ostéopathiques. Donc, si tu nous racontais un peu ton cheminement là au niveau académique là qui en est découlé là en fait.
Super. Après l'ostéo, après le premier puis le deuxième cycle qu'appelle au CEO du programme temps plein chapeauté par Wells. J'ai juste, pour le fun, j'étais tombé là-dessus vraiment par hasard pendant que je faisais la thèse. Si on veut, dans le temps, il fallait faire une thèse qui portait sur l'utilisation de la connaissance de l'anatomie chez les ostéopathes dits experts. Donc, comment les ostéopathes dits experts se représentent l'anatomie pendant leur traitement. J'étais tombé par hasard sur un programme d'une maîtrise en enseignement de l'anatomie à l'Université Queen's en Ontario. Fait que j'ai appliqué vraiment pour le fun, en me disant, tu sais, si tu n'essayes pas, tu ne le sais pas. T'sais. Mais en pensant clairement que je n'allais pas rentrer, moi, j'ai l'impression que je suis rentré parce qu'il y avait besoin d'avoir des quotas de diversité et je représentais un candidat francophone, ce qui est très rare là-bas, j'ai l'impression. Fait que j'ai été interviewé, puis de mon anglais très sommaire à l'époque, ben, j'ai réussi à rentrer. Donc, le diplôme Wells a été reconnu ou c'est parce que je représentais une communauté
Le timing a été fait pour toi, là.
Ça, peu importe, là, mais bref, ils m'ont fait rentrer. Je suis bien content, d'ailleurs. Fait que je suis allé à Kingston, en Ontario, à Queens, faire un programme qui est un programme de maîtrise qui est assez intéressant parce que ça s'enlignait directement avec qu'est-ce que j'avais comme intérêt. C'était aller chercher, approfondir des connaissances en anatomie. Donc, il y avait un volet de cette maîtrise-là qui était beaucoup sur la recherche et puis sur l'avancement des connaissances en anatomie et sciences anatomiques. Mais aussi, il y avait un volet pédagogique, c'est-à-dire essayer de développer des aptitudes pédagogiques pour essayer de mieux transmettre l'anatomie et ses sciences connexes. Fait que c'est une maîtrise double qui appelle, c'est pas de professionnalisation ou juste de thèse en recherche, c'est on fait les deux. Professionnalisation, mais aussi recherche en même temps. Puis naïvement, la maîtrise s'est avancée en même temps que je faisais de la clinique à Montréal. Puis naïvement, ça s'est transformé en doctorat. J'ai embarqué dans l'histoire d'un doctorat en anatomie et biologie cellulaire un peu par défaut. Là. Je me suis fait avoir dans le jeu de... Finalement, c'est le fun, la science. T'sais. Il y en a qui n'aiment pas ça, mais finalement, c'est tellement passionnant que ça s'est tricoté en doctorat. Puis ben, le doctorat s'est terminé.
Donc, dans le fond, on comprend que tu as fait la maîtrise et le doctorat à l'Université Queen's.
Oui, exact. C'est exactement ça. Puis avant de terminer le doctorat, j'ai eu la chance de rentrer comme instructeur dans le laboratoire d'anatomie pour la faculté de médecine à McGill. J'étais rentré à McGill avant d'avoir fini le doctorat, puis la complétion du doctorat m'a amené à pouvoir appliquer sur un poste comme prof pour la faculté de médecine.
Sure. Ben, statut que que tu occupes là, depuis combien de temps environ?
J'ai commencé à McGill en 2016, l'automne 2016, mais comme instructeur de laboratoire, puis comme prof, c'était en 2017. Donc, depuis 2017, j'enseigne à McGill temps plein.
Dis-nous, Gabriel, la nature de tes travaux là, que tu as effectués, là, autant à la maîtrise qu'au doctorat, en quoi ça consistait?
Les travaux sur lesquels j'étais appelé à travailler, c'était dans le cadre de recherche surtout axée sur la chirurgie orthopédique. Parce que j'ai eu la chance à Queens d'avoir des collaborations ou d'avoir un patron qui travaillait pour ce qu'il appelle le Human Mobility Research Center. Puis c'est une entité qui est un peu distincte à l'Université Queen's parce que c'est un petit département, si on veut, de l'université qui se veut être un pont entre l'université et ses scientifiques et aussi les cliniciens de l'hôpital. Fait que les deux mondes se rencontrent dans cet institut-là, si on veut. Donc, les problèmes cliniques que les chirurgiens orthopédiques avaient est exposé à des équipes de chercheurs. Il y avait toute une discussion qui s'enchaînait. Les scientifiques, les professeurs, les élèves essayaient de justement adresser ces questions-là. Fait que c'était extrêmement stimulant. Moi, l'équipe avec qui je travaillais, c'était en chirurgie orthopédique, principalement pour la hanche et l'épaule. Donc, c'est beaucoup axé sur ça. Donc, modélisation 3D, meilleure compréhension de la biomécanique de ces articulations-là. Aussi, développement de chirurgie assistée par ordinateur. Donc, des choses qui sont plus ou moins reliées à l'ostéo, mais dans un contexte où le but ici, c'était d'apprendre l'anatomie, mais aussi de pouvoir utiliser ces plateformes-là de questionnement et d'échange d'idées pour essayer de semer des concepts ostéopathiques dans l'esprit de ces gens-là. Par exemple, ça, c'était quand même intéressant parce que on faisait pas de la recherche en ostéo, mais je me rappelle d'une discussion qui amenait une publication justement où les chirurgiens se posaient la question de pourquoi est-ce que malgré qu'on va resserrer la capsule antérieure d'une gléno-humérale qui a une laxité antérieure, il y a toujours une récurrence de la translation antérieure. Mais comme on le sait en ostéo, des fois, c'est hyper-hypomobilité, donc c'est un équilibre entre les deux. Fait que j'avais juste posé la question de est-ce que ça se pourrait que ça soit parce qu'il y a quelque chose qui est trop contraignant en postérieur. Fait qu'on a fait des études cadavériques, puis on a démontré simplement que par une rétraction postérieure de la capsule, on pouvait avoir des résultats qui sont semblables à une laxité antérieure de la capsule. Fait que c'est juste essayer de revoir des concepts, mettons, en biomécanique, avec une vision ostéopathique. Fait que c'est une plateforme qui permettait ce genre d'échange-là.
OK, donc si on comprend bien avec les connaissances plutôt empiriques qu'on t'avait enseignées en ostéopathie, tu as pu en expérimenter quelques-unes avec les nouvelles connaissances anatomiques ou en tout cas le contexte anatomique dans lequel tu étais.
Oui, exact. Mais c'était ça qui était le fun avec cette plateforme-là, c'est qu'il y avait vraiment les gens étaient ouverts d'esprit à essayer des nouvelles choses parce qu'ils ont, même si la science avance, il y a toujours des zones qui restent floues et qui demandent d'être explorées. Puis souvent, les concepts ostéopathiques, étant donné comme on en a parlé un petit peu plus tôt, quand on est allé au laboratoire d'anatomie à Trois-Rivières, on a une autre vision des fois qui peut apporter peut-être une réponse à un questionnement qui persiste en science. Fait que c'était cet échange-là qui était quand même intéressant, de voir à l'extérieur de la boîte. Par nos lunettes d'ostéopathe.
Bien, justement, ça m'amène à me questionner, là, puisque on est quelques-uns à avoir expérimenté ça, là, le côté plus... la vision ostéopathique, comme tu viens de le mentionner, et la vision de la science. Donc, selon ta perspective, là, t'as sûrement vu des difficultés au travers de ton processus académique qui s'est peut-être pointé au travers le bout du nez, là. Si tu nous exposais un peu, là, si t'as eu des barrières à traverser, des portes à défoncer, tu sais, ce genre de trucs-là.
Pour essayer de
Oui, on pourrait en reparler peut-être tout à l'heure là. En quoi cette connexion là de ton processus académique que tu as fait à la maîtrise et au doctorat a pu finalement aboutir éventuellement à une espèce de connexion avec ton processus ostéopathique?
C'est la force de la science, en tout cas de la science, des sciences anatomiques, c'est l'anatomie, c'est comme un nerf, si on veut. Là. Ça l'innerve plein de structures. Fait que peu importe la structure qui est innervée, que ce soit en orthopédie, que ce soit en chirurgie générale, que ce soit en physiothérapie, en kinésiologie, peu importe. Ça revient tout le temps au centre. L'anatomie, c'est la base de tellement de plein de choses. Fait qu'en ayant le chapeau d'anatomiste, si on veut, on peut parler à toutes ces disciplines-là. C'est-à-dire que, par exemple, un orthopédiste, il va comprendre la physiothérapie parce que, bon, c'est de la biomécanique, c'est dans son domaine, blablabla. L'ostéo peut amener une vision différente qui pourrait lui apporter des réponses. Mais le chirurgien, peut-être que le chirurgien généraliste va peut-être moins comprendre l'anatomie qui est perçue par un physiothérapeute. Mais ça reste l'anatomie. Fait que si on part de ce nerf-là, nerf de la guerre, si on veut, qui est l'anatomie, on peut entreprendre différentes batailles, si on veut, sur différents fronts. Là, je parle de guerre, là, c'est un peu relatif. On veut construire, on veut pas détruire. C'est une analogie qui est venue.
Mais parfois, il faut reconstruire après une petite bataille. C'est parfait, ça donne des nouvelles bases. Avec tout le bagage que tu as accumulé au cours des années, on voit bien là que tu commences à être beaucoup plus présent dans la communauté ostéopathique, surtout en relation avec la dissection. Beaucoup plus d'ostéopathes qui font bon usage de tes connaissances qui ont été acquises là dans ce processus-là. Si tu nous parlais un peu là de tes laboratoires de dissection que tu maintenant offres à la communauté ostéopathique.
Mais tu sais, dans la vie, on a toutes des bucket lists, là, qu'on dit en bon français. Tu sais, le fait d'avoir entrepris des études après le voyage ostéopathique, c'était encore une fois pour essayer d'aller chercher les clés dans le laboratoire d'anatomie. C'était vraiment ça le but. Puis, heureusement ou malheureusement, pour avoir les clés, ça prenait un diplôme et la connaissance. C'est ça. La maîtrise, le doctorat m'a amené à avoir, si on veut, le papier, la crédibilité, puis peut-être une certaine assise. Là. Jamais je vais dire que j'ai la connaissance de M. Bronchetti, par exemple, ou Laurier-Pierre. C'est des bibles anatomiques ambulantes. Mais ces papiers-là m'ont permis d'avoir la chance aussi là, d'avoir une ouverture à l'Université McGill pour, si on veut, démocratiser l'accès du laboratoire. Parce qu'avant, avant que je rentre, les anciens directeurs du département d'anatomie, division anatomie, sciences anatomiques, était un peu fermé à l'idée d'avoir des partenaires externes utiliser leur laboratoire. Il y a eu un changement de direction qui a fait en sorte qu'il y avait peut-être plus d'ouverture. Donc, quand je suis rentré, je voulais mettre une petite coche à côté de ce petit item-là dans ma bucket list de pouvoir ouvrir le laboratoire puis le rendre accessible à la communauté ostéopathique. Fait que c'est ce qui a été fait, puis je suis vraiment content de ça. C'est-à-dire que là, depuis 2017, en fait, là, on a fait plusieurs ateliers de prosection, donc du matériel déjà prédisséqué pour exposer les structures, les mettre en évidence plus facilement, et de dissection quand c'est possible à la communauté ostéopathique. Mais je dis communauté ostéopathique, mais c'est plus que les ostéos, c'est tout ce qui est thérapie manuelle, en fait, parce qu'on a aussi des physios, on a aussi des kinés, on a des gens de différents horizons qui viennent. Puis encore une fois, ce qui est intéressant, c'est d'utiliser l'anatomie comme un un terrain d'entente où on peut divaguer, philosopher, parler de notre interprétation et notre lecture de la même matière qui sont nos patients, en fait, là, qui est l'anatomie.
Mais avec des visions différentes selon le professionnel que tu as devant toi. Au cours des dernières années, là, on s'est bien aperçu que tu as commencé à plus apparaître dans la communauté scientifique, en tout cas québécoise, que tu es intégré avec la Fascia Research Society, avec plusieurs autres chercheurs dans le monde.
C'est comme un autre item sur la bucket list, là. C'est une fois que l'accès à un laboratoire d'anatomie était fait, je trouvais que pour la communauté ostéopathique puis son avancement puis tout ça, ça prenait peut-être, je sais pas, une façon d'encourager de la relève en science. Ça veut dire il faut trouver une façon que nos futurs ostéopathes et les ostéopathes établis s'intéressent un peu plus à la science pour pouvoir aller chercher des évidences de notre pratique puis de ses bienfaits. Puis aussi, essayer de promouvoir le multidisciplinarisme, c'est-à-dire essayer d'encourager la discussion entre différents professionnels pour qu'on puisse être entendu, reconnu par nos pairs de différentes professions, toujours en amenant un discours qui est peut-être crédible parce qu'on a des évidences pour prouver ce qu'on fait. Puis avec le Research Society, ce qui est bien, c'est que les fascias, sur lesquels on le sait, là, les ostéos, je pense qu'on n'a pas à se convaincre que les fascias, c'est une partie, une structure intégrante de notre clinique, si on veut. Là. C'est ce sur quoi on travaille énormément. Il commence à avoir tellement de recherches à ce niveau-là, fait qu'encore une fois, on dirait les étoiles sont bien alignées ou ça reste l'anatomie. Fait qu'on peut parler de l'anatomie des fascias, mais il y a aussi toute une compréhension scientifique sur son implication dans certaines...
certaines sphères.
Exactement. Donc, le fait de pouvoir participer à la recherche dans ce domaine-là, c'est tellement stimulant, fait que ça peut encourager la relève. La Research Society est en plein essor en ce moment, puis en plus de ça, là, sans vouloir faire de publicité, on le sait qu'il était censé venir en septembre 2021, mais la pandémie a décidé autrement. Comme ils viennent à Montréal en 2022 maintenant, en septembre 2022, je ne pouvais pas passer à côté de ça. Il fallait absolument que je profite du fait qu'ils venaient chez nous, donc à McGill, pour pouvoir essayer de promouvoir l'ostéopathie dans cette grosse sphère-là, si on veut.
Pour ma part, moi, je suis déjà inscrite au congrès là, qui va se passer en septembre 2022, là, en fait. Et je pense que pour avoir eu un axe de recherche qui était un peu facial au travers de mes propres travaux, je pense que c'est une belle compréhension à avoir là, en tant que clinicien là, du mode de fonctionnement facial. Pour maintenant être intégré là, au niveau de cette société de recherche-là, qu'est-ce que tu as effectué? Est-ce que tu as effectué différents travaux avec eux? Quel genre de projet vous avez eu ensemble? Là, si tu peux en parler, là, naturellement.
Je fais partie du comité avec d'autres, avec Robert Schleip, que tout le monde connaît, et puis Nathalie Gaudreau de l'Université Sherbrooke, qui est une collègue absolument inspirante. Notre rôle, c'est d'établir les ateliers pré-congrès. Donc, il y a le congrès scientifique et la fin de semaine qui précède ce congrès-là, il va y avoir plusieurs activités, dont un qui est un atelier de dissection que je vais faire avec Carla Steco. On a une chance incroyable d'avoir Carla Steco à Montréal. Pendant une fin de semaine que je vais assister, on est en train de définir un petit peu l'atelier. Fait que deux jours de dissection, une ou deux journées, là, dépendamment de comment vous voulez passer votre fin de semaine avec nous, de dissection spécifiquement axée sur l'anatomie faciale. Fait que ça va être incroyable, j'ai l'impression. Puis ben ça va précéder le congrès. Puis après, il va y avoir justement là, les ateliers de la conférence plus scientifique.
Et là, sûrement que tu en as fait un petit peu de dissection faciale déjà d'emblée au travers des dernières années.
Il y a un des trucs sur lesquels on travaille beaucoup à McGill en ce moment, c'est développer des techniques d'embaumement ou sélectionner les techniques d'embaumement qui préservent le mieux le corps facial. Puis le but, justement, c'est de remettre sur la plateforme d'enseignement l'anatomie faciale qui est souvent mise de côté pour l'anatomie plus classique, si on veut.
Oui, dans le fond, on veut voir les os, on veut voir les muscles, mais on enlève l'enveloppe qui les recouvre.
Puis souvent, quand on pense à dissection, on pense à corps embaumé, donc les faciales ne sont pas toujours bien préservées, on les enlève. Mais les techniques d'embaumement qu'on a actuellement, elles nous permettent de justement leur rendre leur place d'honneur, si on veut. Puis, ben oui, les ateliers de dissection, souvent, on en parle beaucoup là, des fascias. J'ai eu la chance aussi, il y a 2 ans, d'aller à Padova voir Carla Steco dans un de ses ateliers de dissection sur les fascias. Je suis censé retourner aussi en avril de cette année pour justement là, peaufiner un petit peu les techniques de dissection pour mettre en évidence là, le corps facial. Mais c'est toujours dans l'optique de un, l'atelier du congrès, mais aussi de pouvoir amener cette connaissance-là à notre communauté. Parce qu'on le sait, c'est sur quoi on travaille, donc essayer de le visualiser, de le mieux comprendre, de mieux l'enseigner, je pense que ça peut juste aider la communauté ostéopathique et des thérapies manuelles à mieux comprendre qu'est-ce qu'on fait, puis toujours dans le but d'améliorer la santé de nos patients.
Ce qui m'amène à me questionner, parce que vu que on va partir de quand tu étudiais en ostéopathie, de la manière qu'on t'expliquait le fascia en tant que tel, versus tes connaissances actuelles avec la dissection faciale. Dis-moi, quelle différence tu perçois entre ces deux niveaux de connaissances-là?
C'est comme stressant comme question, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est une question. La seule chose là, que j'ai envie de dire juste avant de commencer à répondre, c'est on dirait que ça me fait vieillir. Là. Je me sens pas si vieux que ça, mais il y a tellement un monde entre quand j'ai enseigné, quand j'ai appris l'anatomie au CEO. Ça date de déjà
2010,
très longtemps.
2010, 2009?
Attends, faudrait juste. Ben, gars, j'ai commencé à travailler chez Dino et Nathalie en 2008-2009. Donc, mettons que ça fait comme 15-17 ans. Là,
ouais. Est-ce que c'est là que tu réalises que t'en as fait pas mal en 15 ans?
Ben, je sais pas, mais ça, la vie passe vite, là, je pense que c'est ça que ça veut dire. Mais il y a tout un monde, en tout cas, de compréhension scientifique qui... Il y a toute une compréhension qui s'est faite depuis ce temps-là. Donc, si je me rappelle bien, là, les fascias, c'était moins vivant qu'aujourd'hui, j'ai l'impression. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on comprend l'anatomie faciale, oui, comme un continuum. Bon, on le sait, là, depuis ce temps-là, scientifiquement, ils ont donné raison à ce qui était enseigné en ostéo à l'époque, où le fascia, c'est vraiment, on pourrait le définir par quelque chose qui est un continuum. Bon, déjà là, on l'enseignait comme ça il y a 15-17 ans. C'est encore vrai. C'est maintenant scientifiquement prouvé. Donc ça va, c'est super. Mais de mémoire, le fascia n'était pas aussi vivant à cette époque-là qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, avec toute la connaissance qui se fait au niveau plus histologique, donc les cellules et ses fonctions, on comprend que le fascia est beaucoup plus réactif et va répondre beaucoup plus que de ce que je me rappelle avant. Donc, c'est un organe, le fascia. C'est plus qu'un tissu, c'est un organe. Donc, il faut l'adresser comme un organe.
Qu'est-ce que tu entends par « il est maintenant plus vivant maintenant qu'il l'était il y a 15 ou 17 ans? »
Ben, c'est encore là, c'est ma perception et puis mes souvenirs. Hein, je veux pas dire que Laurier Pierre, par exemple, n'a pas fait un bon travail. Là. Peut-être qu'il est en train de se mordre les doigts en disant « Ah, j'ai jamais enseigné ça comme ça. » Mais bref, de ce que je me rappelle, c'était comme ça. C'était vraiment le fascia. Il va interpénétrer toutes les structures. Mais sa job, c'est vraiment ça. C'est un tissu de soutien. C'est ça. De ce que je me rappelle. Mais aujourd'hui, on sait que, si je fais juste penser aux myofibroblastes, par exemple, qui vont donner une certaine tonicité aux fascias, qui vont donner justement une capacité réactive aux contraintes mécaniques qui lui sont imposées, mais plus que ça, qui vont lui donner aussi une réactivité en fonction du pH, en fonction du stress, que ce soit émotif, que ce soit physique. Puis aussi la compréhension du rôle de l'acide hyaluronique, autant dans son soutien, dans la transmission des forces, dans la transmission des nutriments, dans le glissement, dans sa viscoélasticité. Fait qu'il y a tellement de connaissances qui se sont ajoutées qui font en sorte que le tissu facial n'est plus juste un tissu de soutien, mais c'est un tissu de communication qui est réactif, dans lequel il va avoir un échange. Il y a une vie qui s'est installée dans le fascia depuis ce temps-là, j'ai l'impression.
Tu as observé des différences, justement, dans certains types de fascias reliés à certains types de pathologies, par exemple. Je m'explique, un cadavre qui avait une capsulite de l'épaule, au niveau facial, ça se présentait comment? Est-ce qu'on pourrait interpréter ou, en tout cas, émettre une hypothèse qu'effectivement, au niveau de la mécanotransduction avec le niveau cellulaire, ça l'a vraiment réellement changé puis qu'on pourrait l'observer dans le temps. Est-ce que tu comprends un peu ma question?
Oui, mais la problématique, ben, c'est une problématique. On a la chance de pouvoir observer, c'est déjà ça, le côté qui nous empêcherait de faire ce genre de lien-là, c'est qu'on n'a pas nécessairement accès à ces informations-là chez les donneurs qu'on reçoit. On a accès à leur dossier médical, on sait la cause du décès, mais on n'a pas nécessairement d'informations sur leur santé, si on veut, plus dans du monde de la thérapie manuelle. On a leurs dossiers médicaux. On sait qu'est-ce qu'il y avait comme pathologie, mais on ne sait pas nécessairement leur petit bobo, si on veut.
OK, donc c'est difficile
de faire ces liens-là.
OK, c'est difficile de faire une cause à effet pour l'instant parce qu'on a un manque d'informations.
Exactement, mais la chose, par exemple, qu'on est capable de voir, c'est à quel point chaque corps est unique. On dit souvent la blague dans le labo, en tout cas, ça, souvent, mes étudiants, c'est on est tous des petites fleurs uniques. C'est incroyable à quel point ce qu'on voit dans les livres d'anatomie, c'est standardisé, mais c'est tellement loin de la réalité. Tu vois, on est en train de compléter, on a commencé une étude sur la variabilité du système suspenseur du foie. On a fait peut-être une quinzaine de dissections où on a mesuré, on a essayé de quantifier le plus possible les différents ligaments qui sont en lien avec le système suspenseur du foie pour se rendre compte que ben, il n'y en a pas un pareil. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans les livres d'anatomie? Sur quoi on base notre compréhension de la biomécanique viscérale, entre autres en ostéo, moi, ça me fait poser une grande question sur est-ce que c'est vraiment ça? Parce qu'il n'y en a pas un qui est pareil. C'est quand même intéressant, par exemple, de voir ça. La variabilité est la norme, en fait.
OK. Puis, selon ta perspective, là, tes hypothèses de cette grande variabilité-là, ça serait quoi?
Oh, ça, c'est une très bonne question. C'est excellent comme question. Puis, j'ai aucune réponse. Mais je ne sais pas. Tu sais, c'est tellement multifactoriel, là. Tu sais, nous, on s'intéresse au foie en particulier parce que c'est l'organe le plus lourd du corps humain. Donc, c'est celui qui est peut-être le plus susceptible de recevoir des contraintes mécaniques, donc d'influencer ses systèmes suspenseurs. Mais tu sais, on pense au foie. Écoute, dans le développement, il va se développer de manière unique en fonction de tellement plein de choses que juste son développement peut influencer comment les ligaments se structurent. Après ça, la qualité de vie du patient aussi va probablement influencer ses contraintes mécaniques. Fait que je pense qu'il n'y a aucune variable qui est facilement isolable pour pouvoir répondre à cette question-là.
Bien, un peu comme une connaissance empirique, là, émettre des hypothèses variées, puis bien, on espère qu'on va pouvoir en expérimenter quelques-unes. Dis-moi, Gabriel, là, à la lumière de tout ton cheminement que tu as fait au cours des dernières années, surtout académique, mais on sait aussi que tu as gardé une vie clinique. que tu as conservé pour ta vie professionnelle. Et donc, tu comprends aussi le clinicien qui nous écoute présentement. Qu'est-ce que tu espérais pour la communauté ostéopathique?
Que je pourrais souhaiter pour l'ostéo? C'est une bonne question. On dirait que là, on est face à quelque chose de gros qui s'en vient, qui risque d'être, ben, en tout cas, de mon point de vue, hyper positif. Mais on dirait que juste avant que ça se passe, c'est-à-dire la reconnaissance qui va peut-être ou pas mener à un programme universitaire, on dirait que ça malheureusement amène à une certaine dichotomie dans la communauté ostéopathique. Puis malheureusement, on dirait que ça pourrait être mal perçu par les instances qui sont en position de décider du sort de l'ostéo. Fait que la première chose que j'ai envie de souhaiter, on dirait, c'est une certaine unification, une union, en fait. Faudrait, encore une fois, se référer à notre but, notre rôle en tant qu'ostéopathe, qui est justement le bien-être du patient. Fait qu'il faut mettre le patient au centre de tout ça. Je pense que le but de ce qui s'en vient, c'est encore une fois pour promouvoir la santé du patient et non pas écarter ou diviser la communauté ostéopathique. Ce qu'on veut, c'est que nos patients aillent mieux. Puis pour qu'ils aillent mieux, j'ai l'impression que ça prend plus de compréhension de ce qu'on fait, de ce qui fonctionne bien, pour pouvoir avoir une assise solide, scientifique, avec des évidences, pour pouvoir discuter avec nos futurs collègues, si jamais on rentre dans un système de santé de manière reconnue, pour qu'on ait une meilleure échange et une meilleure compréhension de où est notre place. Fait que ça serait pas mal ça, je pense. Fait une union de la communauté, beaucoup plus de recherche, beaucoup plus de science derrière nos gestes pour qu'on puisse avoir une meilleure discussion avec nos collègues puis qu'on puisse se référer l'un à l'autre pour les problèmes ou les problématiques qui nous seraient peut-être, je sais pas, plus appropriées. Qu'on réfère quand c'est le temps, puis que les patients nous soient référés quand c'est le temps.
La question à 1000 $.
Je vais leur dire, là, c'était vraiment une excellente question. Pour vrai, comme tu dis, une question à 1000 $. Je pense que la plus belle des choses qui pourraient arriver là, en ce moment, surtout... en sachant ce qui s'en vient, ben, probablement. Là, en tout cas, ce sur quoi le gouvernement travaille en ce moment, la reconnaissance, l'encadrement, il y a plein de questions. On est comme mis, si on veut, sous silence. On ne sait pas ce qui se passe. Ça l'amène à beaucoup de conversations en bruit de fond, si on veut, à beaucoup de dichotomies dans la communauté ostéopathique. Je pense que ça serait bien qu'on remette le patient au centre de tout ça puis qu'on essaye de s'unir autour de ça. Donc, de voir que ce qui s'en vient, je pense que ça va être décidé pour le patient. Puis, on doit construire à partir de ça. Il y aura sûrement des choses qui vont être mises derrière. Il va y avoir des choses qui vont être mises de l'avant. Mais il va y avoir, j'espère, quelque chose qui s'en vient, qui va être perçu de manière positive et constructive. C'est-à-dire qu'il va y avoir une nouvelle base sur laquelle on va pouvoir plancher, mais toujours en mettant le patient au centre. Puis de là, ce que je souhaite beaucoup pour la communauté ostéopathique, c'est qu'il y ait beaucoup plus de recherche. En fait, que ce pas vers l'avant-là soit, si on veut, un catalyseur à recherche pour mettre en évidence les bienfaits de notre pratique. En tant que, oui, ostéopathe, mais plus grand que ça, en tant que thérapie manuelle. Parce que oui, il y a des choses qui sont particulières à l'ostéopathie, mais ça fait partie d'une grande famille de la thérapie manuelle. Donc, si on a des évidences scientifiques sur les bienfaits et une meilleure compréhension de ce qu'on fait, on va pouvoir utiliser ça comme pour entreprendre un dialogue avec d'autres collègues du réseau de la santé, pour mieux comprendre quand c'est le temps que nous référons, mais aussi quand ça va être le temps que ces collègues-là nous réfèrent leurs patients. Il faut qu'on prenne notre place, mais de manière quantifiée, si on veut. Donc, qu'on aille notre place. C'est ce que je souhaite, en fait.
Je pense que c'est un vœu que plusieurs ont partage. Gabriel, un énorme merci de ta participation à notre balado. Merci pour ta générosité, là, pour tes transferts de connaissances à la communauté au travers de toutes tes connaissances anatomiques, mais aussi la dissection. Je pense que je suis pas la seule à bien apprécier ces ateliers-là. On se voit très bientôt pour un prochain épisode. Thank you.